espérer, point d'interrogation. Je ne sais pas si, je pense que c'est l'expérience de tout le monde, il y a des périodes où tout va bien, on est positif, on est plutôt optimiste, puis il y a des périodes où au contraire, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas comme on aimerait qu'elles aillent. Moi, ces derniers temps, je passe un peu par une situation comme celle-ci, pas personnellement, mais je trouve qu'il y a autour de moi beaucoup de choses lourdes, que ce soit dans les familles qui nous entourent, on en connaît plusieurs où les situations sont vraiment difficiles, inquiétantes. Il y a cette communauté qui a perdu deux familles importantes, ça laisse un poids sur nous. Puis moi, je m'occupe beaucoup de ce qui se passe dans l'Église libre, des tensions qu'il y a entre les pasteurs, sur les histoires de mouvements plus et autres. Il y a des mois, presque des années, que ça tourne, et toutes ces choses finissent par peser. Toutes ces choses deviennent pour moi un peu lourdes. Et puis, ce que je partage avec tout le monde aussi, c'est la situation mondiale. Franchement, quand on lit les nouvelles, ce n'est pas quelque chose qui nous remplit d'espérance. Et puis l'autre jour, je suis tombé sur ce verset qui dit que Dieu est le Dieu de l'espérance. Je me suis dit, c'est ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de revoir Dieu comme un Dieu d'espérance. Mais quelle espérance face à ces réalités-là ? Alors, je vous lis ce passage où il est parlé du Dieu de l'espérance, c'est dans Romains, au chapitre 15. Les chapitres 14 et 15 vont ensemble, ça parle un peu des relations, et ça se termine, cette zone-là se termine par ce verset, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi pour déborder d'espérance. Déborder d'espérance. Qu'est-ce qu'on a, quand on se dit j'espère, qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce que j'espère face à toutes les situations que je vous énumère? On espère une chose, ça tourne bien pour que je puisse être de nouveau dans la joie et dans la paix parce que les choses vont bien. Et puis c'est... Franchement, c'est ce qu'on recherche. On prie pour quoi ? Pour que les choses aillent bien. On cherche à faire quoi ? Mais que les choses aillent pour le mieux possible. C'est notre recherche. C'est juste. Et je pense que c'est important de prier pour que les choses aillent bien. Prier pour l'Église, prier pour les familles, prier pour l'Église libre et que les choses tournent pour le bien. Mais l'expérience montre que, même si souvent les choses tournent mieux qu'on l'espère peut-être, des fois, on est déçu et les choses sont quand même dangereuses. Des familles se cassent, des églises peuvent se casser, des églises peuvent marcher qu'à un quart, malgré toutes les prières. Et qu'est-ce qu'on lit ici ? Dieu veut donner, nous remplir de toute joie et de toute paix dans la foi pour déborder d'espérance. Il veut nous remplir avant qu'on reçoive le résultat de paix et de foi et de joie. Dieu veut nous donner joie et paix par la foi, par le Saint-Esprit, indépendamment des changements de situation. Mais ensuite, déborder d'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je suis en paix, si j'ai reçu ça, en fait, je n'ai plus à espérer le fin du souci. J'ai reçu ce que je cherche. Je suis en paix, je suis à l'aise avec ce qui se passe. C'est tout à fait heureux. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'à partir de là, on peut déborder d'espérance ? Ça veut dire quoi, l'espérance ? Et c'est pour ça que j'avais mis le point d'interrogation dans l'écran précédent. Déborder d'espérance. Qu'est-ce que l'espérance, finalement ? Qu'est-ce que l'espérance que Dieu veut me donner si ce n'est pas simplement recevoir la joie et la paix ? Et puis, l'autre question qu'on peut se poser, c'est... Puisque pour entrer dans cette espérance débordante, il y a besoin d'être dans la foi, dans la paix et dans la joie, comment on entre dans cette paix, dans cette joie, dans cette, ouais, dans cette sécurité, ce contentement. Alors, la première question, qu'est-ce que c'est que l'expérience? J'ai réfléchi, sans vouloir être biblique, mais à ce qu'on connaît. À mon avis, l'espérance, c'est un besoin profond de l'être humain que notre vie ait du sens. On a besoin, pour que notre vie soit satisfaisante, qu'on puisse être finalement en paix, on a besoin d'espérance, on a besoin du sens. Et c'est quand tout est incompréhensible, quand tout semble aller dans tous les sens, qu'on perd l'espérance. L'espérance, c'est recevoir un sens à notre vie. Je suis tombé aussi l'autre jour sur un article. Je ne sais pas si vous connaissez Jordan Peterson. C'est un conférencier célèbre, c'est quelqu'un qui n'est pas un chrétien vraiment, enfin, c'est difficile à dire, j'entends, c'est assez particulier, c'est un type brillant, un peu réactionnaire par certains côtés, mais qui a une audience immense. Et c'est au mois de novembre, il a fait un tweet où il disait « La vie est souffrance. Le but de la vie n'est pas d'être heureux, mais de trouver quelque chose qui vous soutient malgré la souffrance. » Ok, c'est vrai. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il a reçu en un mois 2,1 millions de vues et je ne sais combien de j'aime. On se rend compte que cette phrase-là, le fait que finalement le but n'est pas d'être heureux, mais d'avoir du sens, d'avoir quelque chose qui nous permette de vivre dans la réalité, c'est quelque chose qui rejoint le cœur des gens très largement. Ce n'est pas juste une théorie chrétienne, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la nature humaine. On a besoin de sens. Et tous les êtres humains sont conscients de ça, plus ou moins. Tous les êtres humains aussi ont tendance à chercher toutes les choses qui satisfont. On court après le sens, mais comment? On court après la joie, la paix, mais aussi l'accomplissement, j'ai marqué le succès, on cherche le plaisir, on cherche des tas de choses pour remplir ce vide finalement. Mais si c'est juste recevoir la paix, recevoir la joie, recevoir ça, sans qu'il y ait du sens derrière, sans qu'il y ait ce débordement d'espérance, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que Dieu nous a créés avec ce besoin de sens, avec ce besoin d'avoir quelque chose qui est au-delà simplement de notre confort, de notre plaisir, de notre joie et de notre succès. Voilà ce qu'est quand même plus fondamentalement l'espérance, le besoin d'avoir des vies qui ont du sens. Et la deuxième question, c'était comment trouver une vraie paix et une vraie joie ? Si courir après, ce n'est pas très utile, comment est-ce que, en tant que croyant, je peux trouver cette paix, cette joie? Et l'autre jour, j'étais une pastorale, et il y a une collègue, une pasteur, qui a raconté, qui nous a cité ce verset, Philippiens 4, verset 6 à 7, que vous connaissez par cœur, et c'est la première idée qui nous vient quand on parle de trouver de la paix dans les circonstances difficiles. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je pense qu'on a tous fait cette expérience de la réalité de ce verset, plus ou moins. Moi, ce qui m'a vraiment touché dans l'histoire de ma collègue, là, c'est qu'elle a eu un enfant, mais qui est né... Il avait 3 mois et demi, je crois, d'avance sur l'horaire prévu. Un tout petit prématuré. Et ça a été très délicat. Pendant des mois, les médecins se sont battus pour maintenir cet enfant en vie. Pendant des mois, un collègue a dû venir tous les jours à l'hôpital, apporter du lait pour nourrir son bébé. Il y avait toujours des ennuis. C'était extrêmement délicat. Et elle nous a raconté, mais ce verset-là, je la connaissais, je l'avais expérimenté, mais ce verset-là, dans ces circonstances, dans cette période horriblement difficile de soucis, eh bien, j'ai expérimenté profondément à quel point c'était vrai. Lui, elle et son mari, pendant tous ces mois puis ça a duré encore après, pendant tous ces mois de soucis, de difficultés, ils ont dit, mais c'était incroyable, on était en paix. Alors, les choses se sont bien finies, le bébé est sorti de difficulté. Maintenant, il doit avoir une année et demie, deux ans, il échoue tout plein, il n'y a plus de problème. Mais l'expérience, ce n'est pas parce que ça s'est bien fini qu'on a connu cette paix, c'est dans cette période difficile, pendant cette période, la présence de Dieu, le secours de Dieu, ça a donné du sens à leur vie. Du sens parce qu'il y avait quelqu'un qui les soutenait. Et je crois que c'est une expérience fondamentale. Et ce verset pour cela, je crois, il est vraiment important. Mais le verset d'aujourd'hui, il ajoute quelque chose. Il nous assure que de ce remplissement de joie et de paix dans la foi, mais pour déborder d'espérance. Pas l'espérance de la guérison de ce bébé, peut-être, mais une espérance au-delà. En fait, dans ces deux chapitres de Romains, je vous ai cité le dernier verset, dans le cours du déroulement du raisonnement de Paul, tout ce qui a été écrit d'avance dans la parole, donc, l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de l'espérance, dans le dernier verset que j'ai cité, ici, le Dieu de la persévérance et du réconfort. En fait, c'est un peu la même chose, le Dieu le Dieu qui nous remplit de toute joie et de paix dans la foi, c'est le Dieu qui nous console, qui nous encourage, qui est là, qui est présent dans ces longues périodes où on a besoin de persévérance parce que les moments difficiles durent. C'est un peu la même chose, mais ici, c'est dit un peu différemment. Au lieu de parler de cette action de Dieu, il est parlé simplement qu'il est le Dieu qui accompagne, le Dieu qui est présent dans ces moments difficiles, qui nous permet de persévérer, qui nous réconforte. Et c'est ce dont on a besoin. Alors, je vous ai quand même mis le premier verset qui parle de la nécessité de la parole, parce que la prière telle qu'elle nous est présentée dans le Philippiens n'a de sens, la prière n'a de sens que si c'est appuyé par les réalités bibliques, les réalités divines. On peut prier un peu, tout le monde prie, même ceux qui ne connaissent rien à Dieu prient. Une prière qui a du sens, eh bien, elle est basée sur la réalité de qui est Dieu. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait derrière cette prière les Écritures. On ne peut pas prier sans avoir l'appui sur les réalités bibliques et on ne peut pas non plus saisir les réalités bibliques sans la prière, ça va ensemble. Mais j'avais envie cette fois de me concentrer sur ce verset, le Dieu de la persévérance et du réconfort nous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois qu'on a reçu cette sécurité, cette consolation, pour entrer dans une espérance, eh bien, il y a un chemin que ce verset nous indique. Il nous parle de cette espérance. En fait, il nous dit que le Dieu de la persévérance nous donne de vivre d'un plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un peu abstrait. On a chanté des paroles de louange tout à l'heure qui reflètent un petit peu cette réalité-là. Mais cette réalité-là, elle est beaucoup plus profonde. L'espérance qui nous est proposée, ce n'est pas simplement de pouvoir chanter ou vivre des réalités comme celles qu'on a chantées, mais il est dit débordé d'espérance. Ce n'est pas juste quelque chose de ponctuel, quelque chose qui est juste là, qui nous soutient. C'est quelque chose de profond. Il veut qu'on déborde d'espérance. qu'on rende gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça reste très abstrait, je trouve. On sait qu'on doit vivre pour la gloire de Dieu, on sait toutes ces choses-là. Mais comment y arriver? Parce qu'on se rend compte, en tout cas moi je me rends compte, que ce n'est pas évident. Que vivre ça, ou dire je vis vraiment ça, si on veut être honnête, on se dit oui, je crois, mais... Et ce que j'ai aimé dans ce verset, c'est que ça donne une ressource. Pourquoi? Dieu qui nous donne la consolation, la paix, la joie, ici, il nous donne quoi? De vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Pour entrer dans cette espérance qui déborde, pour rendre gloire à Dieu, au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment profondément, le chemin qu'indique ce verset, c'est de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Réfléchissez un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut vraiment honorer Dieu, si on veut recevoir ses bénédictions, si on veut entrer dans ses promesses, il y a une nécessité, il y a un chemin, il y a quelque chose, c'est de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais, si on veut être concret, comment peut-on être en plein accord les uns avec les autres? C'est le sujet de tout ce qui précède. Le chapitre 14 cherche à nous expliquer les manières, les chemins pour pouvoir vivre d'un plein accord les uns avec les autres. Et on va lire juste le tout début de ce chapitre. Chapitre 14, versets 2 et 3. Voilà. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans disputer ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas, que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli, etc. etc. Le contexte, c'est l'Église aux Romains, et puis dans l'Église aux Romains, il y a des gens qui sont avancés dans la foi, il y a des gens qui sont faibles dans la foi. Comment vivre ensemble? Et ça va se développer dans tout le chapitre avec toutes sortes d'aspects dans lesquels je ne veux pas entrer. C'est un cas particulier, si on veut. Comment, dans l'Église, les responsables, essentiellement, doivent se considérer les uns les autres. Mais c'est plus profond que ça. Et je trouve que quand on lit le chapitre avec un peu de réflexion, d'ouverture, c'est plein de bonnes pistes sur comment vivre ensemble. Alors, il y a d'autres enseignements dans la parole sur la gestion des différences. Hein. Mais ici, il y a quelque chose, je trouve, qui est central, justement à cause de ce verset que je vous ai lu, qui dit que cette situation-là, si on est d'une même pensée, alors on glorifie Dieu. Donc, c'est vraiment important. Alors, essayons d'élargir ça. La première chose qu'on voit dans ce chapitre, c'est qu'on est tous différents. On peut être mûrs dans la foi, ou des petits débutants. Mais on est différents de multiples manières. On a des tempéraments différents, des réactions différentes, on a des histoires différentes. On peut être une personnalité dominante, autoritaire, ou une personnalité effacée. On peut être dynamique, on y va, on avance. On peut être flegmatique, on a tout le temps, on verra. On peut être... Certains sont faciles à vivre, facile d'être avec eux. D'autres sont difficiles à vivre. C'est évidemment. Il y en a qui peuvent être pénibles. Il y a des gens qui sont. Il y en a qui sont réfléchis. Il y en a qui sont spontanés. Il y en a qui sont. Qu'est-ce que j'avais encore marqué? Autoritaire, conciliant, dynamique, flegmatique, etc. On peut être aussi solide. On peut être fragile. On peut être paisible, on peut être soucieux, et on peut être en effet immature, ou on peut être sage, on peut être un gamin, ou un vieux sage. tout existe. On est très différents les uns des autres. Et ce n'est pas évident, que ce soit dans l'Église, mais je dirais surtout dans la famille, de vivre ces grosses différences de personnalité. Alors, en lisant tout ça, j'ai essayé de résumer, et j'ai choisi juste deux titres, deux mots clés qui reviennent. Ici, on l'a, je crois qu'on les trouve ici. Non, il reste où tu étais. Reviens en arrière. Voilà. Il y a le mot accueillir. Ça commence comme ça, oui. Accueillir, accueillir. Tous, sans discuter, sans trier, sans juger, malgré les différences. Et ce n'est pas facile si vous êtes dans un groupe de travail, par exemple, où il y en a un qui est super énergique, qui tire en avant. Ben, ce n'est pas très facile. Tout le monde se sent écrasé. Comment gérer ça sans discuter? Accepter qu'il y en a qui sont dynamiques, qui sont autoritaires. Accepter que d'autres ont de la peine à supporter ça. Accepter ben, qu'il y en a qui sont pénibles, comme je disais tout à l'heure. Et d'autres pas, mais accepter le fait que la personne est pénible ou fragile, ou accueillir, pas en fonction des qualités de la personne, mais accueillir. C'est pas évident. J'ai écouté un message il y a quelque temps de Rick Warren, qui prêchait, il disait, vous voulez l'unité, vous cherchez l'unité, eh bien, pour avoir et obtenir cette unité, il faut aimer la diversité. Pas simplement la tolérer, aimer la diversité, parce que la diversité, elle est divine. C'est la pensée de Dieu qu'on est tous différents. C'est la pensée de Dieu qu'il y en ait qui sont plus en avant, plus en avant. C'est la pensée de Dieu que certains ont reçu des dons et d'autres pas. C'est la pensée de Dieu qu'on soit différent. C'est vraiment important. Donc si on n'aime pas, on ne respecte pas cette diversité, si on veut que tout le monde soit dans un certain cadre, eh bien on ne peut pas vivre l'unité. On ne peut pas être d'une même pensée. Il y a un cheminement indispensable, l'humilité, d'acceptation, d'admiration, d'accueil de l'autre, accueillir. Puis pour accueillir les uns les autres, en réfléchissant, je me dis, mais une chose qui est importante, c'est d'avoir des relations. Parce que c'est très facile, et ce serait un peu ma faiblesse, c'est très facile de vivre seul, puis de se retirer, et puis de rester un peu en marge des choses. Ben non. Cultiver des relations profondes, que ce soit dans l'Église, puisque c'est un peu le thème que Paul porte ici, mais aussi dans la famille, dans le couple, avec les enfants, avec les gens qui nous entourent. Cultiver les relations. Cette acceptation des différences, eh bien, il faut l'accueillir aussi pratiquement. On ne peut pas avoir des relations sans qu'elle soit frustrante, difficile. Mais l'appel de Dieu, en nous demandant d'accueillir, c'est qu'au-delà de cela, on ait des relations et on recherche ces relations. Elles sont centrales, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la communauté. Et dans ces phrases, il y a une autre chose. Je ne sais plus si je l'ai mis ici. Oui. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. On a estimé les autres, quelle que soit leur approche, même les pénibles, estimer, ne pas mépriser, ne pas juger, ne pas mesurer, ne pas critiquer, ne pas mettre en doute les motifs de l'autre. Je ne sais pas s'il y a ces termes qui vous rejoignent, parce qu'ils sont faciles à entrer. Retenez-les, réfléchissez à la manière dont, quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous réagissez. Méprisez, jugez, mesurez, critiquez, douter des motifs de l'autre. Et puis on peut en rajouter, c'est ce auquel j'ai pensé, c'est pas très difficile de trouver toutes les raisons qu'on a pour ne pas estimer ceux qui nous dérangent finalement. Et ça précise, car Dieu l'a accueilli. Accueillir parce que Dieu nous a accueillis et accueille notre frère, notre sœur, notre conjoint, nos enfants, tels qu'ils sont maintenant. Et puis, pour prendre un peu ce contexte-là, je dirais, croire à la réalité de la piété de l'autre, au-delà des comme là, végétarien, ça n'a pas beaucoup de sens peut-être, mais plus loin dans la liste, il y en a qui sont peut-être plus évidents, qui nous toucheraient peut-être plus, mais si des gens autour de nous cherchent des béquilles un peu quand, pour soutenir leur foi ou pour soutenir leur place dans un groupe ou la société, ne pas, moi je dirais, dire ok, il a peut-être besoin de ces béquilles, mais s'il en a besoin, s'il le ressent, eh bien c'est aussi une chose à respecter. On n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes idées, on a souvent besoin d'encouragement, de limites. Y a une manière de le dire peut-être, mais se sentir supérieur à l'autre ou se sentir plus libre que l'autre, il y a toujours ce danger de mettre en doute et de diminuer, de penser que Dieu a sur l'autre un regard différent et qu'il est moins estimé par Dieu que moi, par exemple. Parce que si on réfléchit, et dans ce passage c'est très clair un peu plus loin, celui qui fait ces choses-là le fait en général par motif de conscience. Et on peut se dire, ah non, il n'a pas compris, mais il le fait par motif de conscience. Et tout ce passage nous dit que respecter la conscience de l'autre est extrêmement important. Un peu plus loin, c'est le verset 6 de ce chapitre qui dit, « Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. » Il y a deux actes opposés qui sont tous deux faits pour le Seigneur. Eh bien, je crois que c'est important de rendre compte, d'estimer l'autre, parce qu'il est finalement au même niveau. Il fait la chose pour le Seigneur, avec sa faiblesse et tout ce qu'on veut, mais avec ma faiblesse aussi. C'est aussi là qu'on voit l'importance fondamentale, même s'il n'en parle pas, du pardon. Parce que ces différences, elles sont des fois blessantes. Il y a besoin de pardon. Mais il y a surtout besoin d'estimer l'autre. Estimer très haut nos frères et sœurs. Vraiment. Et en particulier ceux qu'on aurait tendance à juger comme peu intéressants. C'est le week-end d'église qui va venir, le sujet c'est la culture de l'honneur. Ben, je crois que c'est quelque chose dont on a très très besoin. On a besoin de cette culture de respect, d'appréciation, de non-jugement, d'accueil de l'autre. Et c'est ça la culture de l'honneur, honorer les autres. Pour ça que je vous encourage à venir à ce... Pour deux raisons. Un, c'est un sujet important. Et la deuxième raison, c'est que les relations entre nous sont fondamentales. Une autre chose intéressante dans ce passage, c'est qu'il distingue ceux qui sont forts dans la foi et ceux qui sont faibles dans la foi. Et quelle est la différence? Alors, je vous lis ce que j'ai écrit. Le fort, il est libre, il agit de cœur selon les principes de Dieu. Le faible a besoin d'appui, parfois illusoire, et cherche finalement à contrôler Dieu et à contrôler les autres, et à se contrôler lui-même par ses obligations, ses modes d'emploi qu'il se met en route. Le fort laisse, dans la foi, laisse Dieu libre d'agir comme il le veut. Il accueille les circonstances comme étant sous le plein contrôle de Dieu. Le fort dans la foi, il a foi, il croit, il est sûr, il a l'assurance que Dieu règne et qu'il règne justement, qu'il fait tout ce que fait Dieu, tout ce qui arrive finalement est contrôlé, pesé, mesuré par Dieu. Et c'est ça être fort dans la foi. Quand tout va mal, quand même être certain et avoir confiance que Dieu est en contrôle et que rien que je fais finalement ne peut empêcher Dieu d'être en contrôle. Ne pas contrôler, c'est être fort dans la foi. Et puis pour que ce soit possible, eh bien je crois que la nécessité est d'être soi-même intérieurement dans la joie, dans la paix, dans la confiance. C'est parce qu'il y a ce contentement intérieur qu'il est possible finalement de laisser de l'espace aux autres et de ne pas vouloir tout contrôler, vouloir tout tenir en main. On peut repasser au verset suivant. Je répète le verset tout à l'heure, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot sur lequel je veux retenir, c'est que Dieu nous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, afin que tous ensemble, d'une seule voix, nous rendions gloire à Dieu, au Dieu et Père de notre Jésus-Christ. Ensemble. On n'est pas appelé à vivre notre relation avec Dieu, notre sécurité en Dieu, notre espérance en Dieu, tout seul. Ensemble, d'une seule voix. C'est la pensée de Dieu pour aujourd'hui, mais c'est la pensée de Dieu pour l'éternité. Ensemble, Dieu nous veut dans son ciel, sous sa nouvelle création, en tant qu'une famille, en tant que l'ensemble. On doit aimer Dieu, et j'espère que chacun peut se dire, moi, j'aime Dieu. Eh bien, il veut qu'on aime Dieu ensemble, pas seul. Je crois que l'individualisme crasse qui existe dans le monde occidental nous fait perdre vraiment quelque chose de central, c'est-à-dire l'importance d'être ensemble, l'importance de vivre notre vie, notre foi, notre rapproche de Dieu, nos relations, nos progrès ensemble. Non seulement on a besoin les uns des autres, mais ça fait partie du cœur de Dieu, de ce qu'il veut, c'est en tant que groupe, en tant que déjà en tant que famille, je dirais, de couple, famille, mais en particulier en tant que peuple de Dieu, c'est ensemble. C'est une illusion totale et c'est sérieux de vouloir penser, vivre sa vie chrétienne sans les autres. Je l'ai déjà dit souvent parce que j'ai parlé de ça à plusieurs, mais j'ai lu l'autre jour aussi un texte où on disait que la plus grande église, c'est les chrétiens qui n'ont pas d'église. La majorité des croyants sont hors de l'église. C'est dramatique. C'est passé totalement à côté du plan de Dieu. Ce n'est qu'ensemble, en tant que communauté, en tant que peuple de Dieu, ce n'est que dans des relations réelles, profondes, justement, comme je l'ai décrit tout à l'heure, avec cet accueil, avec ce respect, si ça n'existe pas, eh bien, on passe à côté du plan de Dieu. C'est même dit, vous rendiez gloire, non, vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Vivre seul, vivre sa vie chrétienne indépendamment, c'est désobéir à Jésus-Christ. C'est vraiment pas ce qu'il veut. Il veut le contraire. Et ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, je vous disais tout à l'heure, je ne me suis pas senti repris parce que l'Église, pour moi, est fondamentale. Je n'ai pas ce point. Mais cette capacité de vivre seul, de me suffire à moi-même, je me dis, mais il y a quelque chose qui est sérieux là derrière. Non, on est appelé à vivre ensemble. Et une communauté comme celle-ci, où on est ensemble, c'est quelque chose d'absolument vital. Malgré toute la faiblesse, malgré les différences, malgré ceux qui sont pas très intéressants, malgré ceux qui parlent beaucoup, malgré ceux qui on comprend pas, malgré ceux qu'on admire ou dont on est jaloux, malgré toute cette réalité là, eh bien le combat pour résister à ça, mais pour accueillir, il est central. Ça fait partie du chemin de Dieu pour nous. Aimer Dieu, aimer son prochain. On ne peut pas séparer les deux. Et c'est en particulier vrai dans la famille de Dieu. J'avais envie de terminer en vous disant, mais le conseil a décidé de ne plus faire les petits groupes de discussion comme on les faisait habituellement. Je me suis dit, d'un côté, je comprends, puis c'est vrai, c'est bien de changer. Mais je me suis dit, il faut quand même peut-être terminer quand même par un moment de réflexion. Et j'ai préparé une question qu'on ne va pas discuter ensemble. Je vais juste vous demander de réfléchir à une question. Alors, vous pouvez réfléchir à d'autres choses si vous voulez, sur ce que j'ai dit qui vous a frappé. Mais quel est, pour chacun de nous, le principal obstacle personnel pour accepter les autres? Je ne sais pas si, dans tout ce que j'ai dit, il y en a un qui vous est venu à l'esprit ou qui vous viendra à l'esprit maintenant, mais je vais vous laisser 2 minutes, réfléchissez à ça, puis ensuite on se lèvera et puis je prierai pour que le Saint-Esprit touche cette chose-là. Ça me semble une façon de terminer sur un moment personnel et sur un moment de prière. Ça va pour vous? Alors, 2 minutes. Quel est l'obstacle personnel à l'acceptation des autres? Est-ce que je contrôle? Est-ce que je juge? Est-ce que je discute, critique? Je suis indifférent? Je fuis? Enfin, toute autre possibilité qui vous touche personnellement. Seigneur Jésus, tu es celui qui connaît le fond de nos cœurs, qui sait bien, bien mieux que nous où sont les obstacles, où sont les choses qui ont besoin d'être guéries et touchées. Et on vient maintenant devant toi avec que tu as mis sur notre cœur, aux uns et aux autres. Et notre prière maintenant, Seigneur Jésus, c'est que par ton Saint-Esprit, tu permettes que cette chose-là puisse lâcher. Tu nous rends attentifs à cela. Tu nous permets de progresser, et de ne pas oublier. Tu vois combien facilement on revient, on retourne. Mais tu es patient et on te prie, Seigneur, dans nos vies pour que cet aspect-là puisse être vraiment un aspect qui diminue et que dans nos relations, dans notre capacité d'apprécier l'autre, dans notre accueil de l'autre, dans notre respect de l'autre, eh bien les obstacles, et cet obstacle-là en particulier, eh bien tu le lèves, Seigneur, par ton esprit. Amen.